France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Cette fois, Ulysse a dit tout ce qu'il avait à dire. Il n'a rien à ajouter. Il a parlé pendant toute une longue nuit. Il faut dire qu'on le lui avait demandé, on a même insisté. Quand il a voulu s'arrêter pour aller dormir, on l'a relancé. Ulysse a raconté toutes ses aventures, depuis le jour où il a quitté le pays de Troie, après la chute de la ville, et pris la mer avec toute sa flotte pour rentrer chez lui. C'était il y a 10 ans déjà, mais il n'est pas arrivé chez lui, toujours pas, au moment où il parle. Une interminable série de malheurs l'a empêché de rejoindre son pays, Ithaque, une petite île pas terrible, sur la côte ouest de la Grèce.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Homère nous dit qu'à la fin de son récit, ses auditeurs sont stupéfaits. Ils restent bouche bée, sans pouvoir rien dire.
Eux tous étaient muets, figés dans le silence. La fascination les tenait dans le palais rempli d'ombre.
Ce n'est pas l'enchantement, le plaisir que l'on éprouve normalement lorsqu'on écoute un bon poète. Ulysse n'a pas parlé pour plaire, il n'est pas poète. Il a tout simplement raconté des choses stupéfiantes qu'aucun mortel n'aurait pu imaginer. Son public était le public idéal pour lui. Ulysse n'a qu'un seul désir, rentrer chez lui. Or les gens qu'il a fascinés par son histoire sont des marins. Ils pourront le conduire chez lui avec leur navire. Ses auditeurs s'y connaissaient en matière de voyage. Ils vivaient dans une île que personne d'entre nous n'a vue et ne verra jamais. Elle est d'un autre monde. Les dieux en l'ont décidé ainsi. Mais ces gens étaient des passeurs. Ils pouvaient revenir dans le monde normal, dans le monde connu des Grecs. Ils avaient des bateaux ultra rapides qui n'avaient pas besoin de gouvernail. Ils étaient guidés par la seule pensée. Elon Musk peut toujours aller se rhabiller. Ces marins fabuleux sauront conduire Ulysse. Nous en avons déjà beaucoup parlé de ces passeurs, les Phéaciens. Ils sont extrêmement généreux, riches, sophistiqués, férus de technologie et parfois arrogants, comme tous ceux qui vivent dans une béatitude fortunée. Mais ils ont été très accueillants envers Ulysse. Après des années de mésaventures, après 7 années de réclusion au bout du monde, du côté du couchant, chez la déesse Calypso, confinement amoureux quand même, plein de plaisir, en tout cas au début, Ulysse a atterri chez ses Phéaciens. Il a été vu, accueilli par la merveilleuse Nausicaa, la fille du roi, qui l'a conduit chez son père Alcinous, le roi des Phéaciens. Là, pour une fois, les dieux sont intervenus. Ulysse était moche, défoncé par la mer, repoussant. Et la déesse Athéna, pour le rendre présentable et même désirable, l'a enduit de beauté. C'était la première fois que la déesse se manifestait. Sinon, elle a laissé Ulysse seul avec ses misères. Le roi, la reine et l'ensemble de la ville des Phéaciens accueillent l'étranger de manière grandiose. Il y eut une longue fête avec des jeux sportifs où Ulysse a montré qu'il pouvait être plus fort que tous les jeunes Phéaciens prétentieux. Il y eut des poèmes chantés par un poète extraordinaire, Démodocos, de la danse et un grand festin. La soirée est déjà bien avancée. Ulysse, à la demande du roi, dit enfin qui il est.
« Je m'appelle Ulysse, fils de Laère, roi d'Ithaque et vainqueur de Troie. J'ai voyagé pendant plusieurs années poursuivi par la colère des dieux et par eux chaque fois éloigné de mon royaume. Maints désastres m'ont accablé. J'ai lutté contre la tempête, je n'ai plus d'amis. Ils ont péri, noyés. Je n'ai plus personne, je suis seul. Mais je suis vivant. Et aujourd'hui, je dois en toute hâte retourner chez les miens qui toujours m'attendent. »
Il ne se contente pas de se nommer, lui, l'Ulysse déjà si glorieux, le grand vainqueur de Troie. Il raconte toutes ses errances. Il veut expliquer comment lui, un roi mondialement connu, a pu devenir ce pauvre type, désemparé. Ulysse raconte longuement, mais il est impatient. Il n'a qu'une seule envie, enfin retrouver son palais et sa famille après 20 années d'absence. 10 années de guerre, puis 10 années de vagabondage sur les mers, après la perte de sa flotte, puis de tous ses compagnons noyés. Il sait que les Phéaciens, si attentifs à ce qu'il dit, si fascinés par son histoire, sont pour lui le salut. Il faut qu'il les convainque que ses misères, son exil, doivent absolument cesser grâce à eux.
Alcinous, roi de Phéacie, j'ai à te parler un instant. J'ai besoin que tu me donnes un de tes bateaux pour me ramener sans retard à Ithaque.
Ulysse, nous te donnerons un navire. Et nous souhaitons qu'il te conduise heureusement jusqu'à ton royaume.
Les Phéaciens se sont engagés à le raccompagner dès le lendemain. Mais Ulysse doit par son récit leur montrer que c'est absolument nécessaire. Il obtient gain de cause. Et obtient plus encore. Après son récit, le roi Alcinous demande aux 12 grands responsables de son pays de combler Ulysse de cadeaux. Ils seront plus précieux, plus abondants que le butin qu'il aurait pu rapporter de Troie. Le récit d'Ulysse a été très long. Homère, le poète qui raconte les aventures d'Ulysse dans son poème l'Odyssée, a pendant des milliers de vers laissé la parole à son héros. Il a laissé parler en son propre nom à la première personne. Ulysse a raconté en détail toutes les épreuves qu'il a connues. Il les a racontées de son point de vue à lui, de son point de vue très limité, très imparfait d'être humain, d'individu mortel, soumis aux duretés que lui imposent les dieux. Normalement, dans une épopée, le poète, guidé par la divinité omniscience qu'est la muse, peut savoir ce que les dieux pensent de l'histoire qu'il raconte. Il peut savoir comment les dieux ont orienté les actions des pauvres êtres humains qui sont bien obligés de vivre dans le monde que les dieux mettent en place pour eux. Le poète a ce privilège énorme de pouvoir se rendre dans l'Olympe et d'entendre les discussions entre Zeus, Poséidon, Héra et les autres. Il faut pour cela qu'il sache écouter ce que la muse, la déesse qui sait tout, chante au fond de lui, dans sa poitrine. Ulysse, évidemment, ne le peut pas. Il n'a pas accès à ce que pensent les dieux. Il tâtonne. Il nous a donc raconté un monde tronqué, à vue d'homme, tel qu'il est apparu à un être seulement humain. Un monde opaque, peuplé de divinités, de monstres, de quelques créatures humaines bienveillantes, de toqués, de drogués, et d'anthropophages plus ou moins civilisés.
Je suis Polyphème, fils de Neptune.
Le fils de Neptune ! Nous sommes perdus !
Non !
Ne le mangez pas !
C'est horrible !
Mais comme ils sont coriaces, ces Grecs, que leur chair est fade.
Ce monde était pour lui inconnu, chaque fois nouveau, et chaque fois hyper dangereux. Chaque fois, Ulysse et ses compagnons étaient laissés à eux-mêmes. Les épreuves ont été nombreuses. Ça a commencé par une défaite militaire tout de suite après le départ de Troie. Des amis des Troyens, le peuple des Kikones, qu'Ulysse était allé piller, comme on faisait à l'époque, ont massacré une partie de la troupe d'Ulysse. Le grand vainqueur de Troie, qui a gagné la guerre après 10 années très rudes, a été vaincu en une petite journée. Puis, après une tempête démente lancée par Zeus, Ulysse a changé d'univers. Il a quitté le monde habituel pour basculer pendant des années dans un espace inconnu, fabuleux, dont il n'avait, dans la plupart des cas, jamais entendu parler. Un univers qu'il n'a pas cherché à explorer, mais où il a été entraîné malgré lui par les dieux. Homère nous a ainsi fait visiter des lieux improbables, dont certains portaient des noms connus de son public, les lotophages au sud, en Afrique, l'île d'Éole, près de la Sicile, les Lestrigons à l'est, les Enfers à l'ouest, Charybde et Scylla, entre la Sicile et l'Italie. Sur ces lieux, sur ces populations, des récits circulaient déjà dans la Méditerranée. Mais Homère a fait de ces lieux connus ce qu'il voulait. Ça ne veut pas dire qu'il en ait fait n'importe quoi, au gré de sa fantaisie. Homère ne traçait pas une carte du monde. Mais il construisait méticuleusement, avec une très grande précision, un univers de contraste, d'île en île. Homère, en faisant passer Ulysse d'un lieu à l'autre, a posé des grands repères qui définissent un espace cohérent. Il a fait voir, par les voyages d'Ulysse, les grandes directions d'un cosmos, d'un monde ordonné, intelligible, complet, un cosmos imaginaire et rigoureux, qui embrasse la totalité des lieux possibles, des terres et mers cernées par le fleuve océan, et au-delà même de l'océan, avec les enfers. Il a fait miroiter, en les faisant briller avec une grande netteté, l'une à côté de l'autre, comme brillent les pierres et les ors d'une même parure, les formes les plus diverses que peut prendre la vie des sociétés humaines ou inhumaines. Homère a joué pour cela sur de grandes oppositions très claires. Elles construisent un monde. Il y a les îles où ne vivent que des divinités, chez Circé, chez Calypso, ou bien des îles qui sont des sociétés humaines. Ces communautés sont nettement opposées, sociétés de cannibales comme les Cyclopes ou les Lestrigons, ou lieux de paix très civilisés comme l'île des Phéaciens, ou l'île familiale fermée et pacifique qu'est le domaine flottant du maître des vents, Éole. Homère a fait varier presque à l'infini les contrastes entre les pays du levant et les zones troubles des ombres de la disparition, du côté du couchant. Entre ces deux pôles, il a mis l'île du soleil, île si paradoxale, à la fois radieuse et dangereuse pour les humains, où prospèrent bienheureux, mais intouchables, les troupeaux lumineux du dieu soleil. Île solaire insituable entre l'extrême est et l'extrême ouest. Du côté du levant, Homère a mis la sorcière Circé, fille du soleil, alors que d'autres poètes la faisaient vivre à l'ouest, en Italie. Circé l'ambiguë, amante maléfique, mais finalement favorable à Ulysse, qui a pu se montrer plus rusé qu'elle. De l'autre côté, du côté du couchant, des enfers, de la disparition, il a mis une autre divinité, l'amante constante, fidèle, qu'est Calypso, fille d'Atlas, déesse qui cache, qui garde son homme pour elle, dans ce qui pourrait être un bonheur perpétuel, mais répétitif. Entre l'Est et l'Ouest, Homère a posé une porte hyper dangereuse, souvent fatale, le détroit entre les roches de Charybde et de Scylla, ou autrement nommé la passe entre les roches errantes, les roches planctes que Jason et sa bande d'argonautes avaient franchi une génération auparavant avec leur navire Argo. Une fois qu'ils avaient conquis la toison d'or, Jason avait été aidé par les dieux. Ulysse pas, il est livré à lui-même. Il doit franchir cette passe grâce à son intelligence.
François Hartog, historien.
Ulysse est ce personnage, oui, que j'avais appelé homme frontière. Ça veut dire que par ce voyage qu'il effectue, donc qui est un voyage de retour, il n'a qu'une idée, c'est de rentrer chez lui. Il n'a aucune curiosité du monde, il s'en fiche éperdument. Il est homme frontière parce que, par les aventures qui lui adviennent, il fait l'essai, dans son quotidien, si je puis dire, l'essai des limites. Des limites entre l'homme et l'animal, entre l'homme et les dieux, entre l'homme et les monstres. Il va jusqu'au bord. Il risque de tomber, ou il pourrait tomber de l'autre côté, quand il va pour consulter aux enfers Tirésias. Il est là jusqu'au bord du trou où il risque de se casser la figure et à ce moment-là, ce serait fini. Voilà. Donc c'est en ce sens. Et du même coup, il définit ce qu'on pourrait appeler une identité grecque.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Nous avons eu les mêmes rêves, aimer le vent dans les bambous, les bois roulés le long des grèves, laisser volant le sable doux. J'ai chanté l'eau de la rivière, les bras tendus des arbres morts, chercher la source et la lumière, l'orange rose de l'aurore. Quelques enfants dans une ronde m'ont fait revoir toute ma vie. Le grand chapiteau du monde, peut-être aussi le plus petit. Nous avons eu les mêmes rêves, toucher le ciel aimer l'amour. Les nuits d'été gorgées de sève, les gestes tendres au point du jour. J'ai chanté l'or et la poussière, haï la guerre et les tambours. Il y a tant de beaux mystères, je ne veux pas devenir lourd. Il y aura d'autres rêveurs pour dire les belles aux lèvres douces, les volets bleus, la lande en fleurs, les rouges gorges au nid de mousse. Nous n'étions pas toujours poète, mais voulions vivre à l'unisson. Ne pleurons pas nos soirs de fête, le temps des rires et des chansons. Voici la nuit, le vent se lève, demain sera un autre jour. Rien ne s'en va, suivons nos rêves, tout vole et danse tour à tour. Et si le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, nous qui aimions les mêmes choses, restons ensemble par le cœur. Le givre se dépose sur nos chemins de voyageurs, nous qui aimions les mêmes choses, restons ensemble par le cœur.
Pierre Judet de la Combe raconte le dernier jour d'Ulysse chez les Phéaciens et son embarquement pour Ithaque.
Pendant toute sa route, Ulysse a dû la plupart du temps se débrouiller seul et lutter par ses propres moyens contre les monstres, les vagues, contre la colère du dieu de la mer, Poséidon, contre la colère de Zeus et du dieu Soleil. Ulysse n'a pas eu de chance, mais il s'en est tiré. Ces lieux si différents s'ignorent les uns les autres. Ils ne communiquent pas ou ne communiquent plus. Les Phéaciens, êtres humains normaux et civilisés, ont fui les Cyclopes, ces grandes brutes qui les harcelaient, et se sont installés très loin. Chaque lieu est isolé, et chacun est un univers clos, autosuffisant. À sa manière, chaque île est une image particulière de la totalité du monde, où on risque d'être enfermé, de disparaître pour toujours. Il faut s'en échapper pour retrouver le vrai monde. Une seule fois, une porte s'est réellement ouverte dans ce cosmos fantastique, si bien construit et si complet. Ulysse et ses compagnons ont pu, un moment, sortir de ce monde fabuleux et revenir dans le monde réel, familier, bien connu, presque tangible, leur monde. Ils ont pu, grâce à la générosité du maître des vents, Éole, apercevoir de très près leur île, Ithaque. Mais la curiosité, la cupidité des compagnons ont tout gâché. Et le bateau d'Ulysse repartit, poussé par des vents violents, vers de nouvelles errances interminables. Ulysse s'est à nouveau trouvé prisonnier de ce monde clos où il est ballotté entre toutes les dimensions de l'espace. Deux autres fois, un chemin a été ouvert vers le dehors de ce monde. L'ouverture est venue de deux femmes divines extraordinaires, habitant chacune loin de tout, à un bord extrême du monde. Elles ont pu ouvrir à Ulysse des routes qui traversent le vaste monde et le rapprochent de son salut. Circé, la divinité solaire, divinité du début du jour, a fait faire à Ulysse le tour du monde jusqu'aux enfers et retour. Elle lui a indiqué le chemin de sa patrie. Calypso, la crépusculaire, lui a appris comment se repérer de nuit avec les étoiles pour s'éloigner de l'ouest extrême et faire route vers Ithaque. Mais ses chemins n'ont pas abouti. Maintenant, ça y est, c'est fini. Les Phéaciens, à qui il a raconté toutes ces histoires, se sont engagés à le conduire chez lui dès le lendemain. Ulysse peut enfin se taire et se coucher. Il a hâte que le jour se lève. Homère a donc repris les rênes du récit. Il parle d'Ulysse à la troisième personne. Et comme Homère est en relation avec les muses, sinon il ne pourrait pas chanter, il va pouvoir nous expliquer ce que pensent les dieux, en direct. On entendra Zeus, Poséidon, Athéna. Ce sera surprenant. Le jour se lève chez les Phéaciens, mais ça ne va pas aussi vite que le souhaiterait Ulysse. Le matin, le roi Alcinous vérifie le chargement du bateau qui doit emporter Ulysse. C'est long. Les cadeaux qu'offrent les Phéaciens sont très nombreux. Il faut bien les caler, de manière qu'ils ne gênent pas les 52 rameurs. Puis il faut prendre un repas dans le palais royal, faire des sacrifices, écouter de nouveau chanter le poète Démodocos.
Alcinous, seigneur sacré, sacrifia un bœuf à Zeus qui règne sur le monde, au dieu du sombre ciel. Ayant brûlé les cuisses, ils prirent part au fastueux festin dans la joie. Devant eux, Démodocos chantait, divin chanteur honoré par le peuple. Mais Ulysse tournait souvent les yeux vers le soleil resplendissant, souhaitant son coucher, car il ne songeait qu'au retour.
Les Phéaciens sont incorrigibles. Ils adorent faire la fête, boire, manger, écouter de la belle poésie. Tout cela dans un cadre très pieux, où on prend soin de faire de belles cérémonies de sacrifice pour les dieux. En fait, ces Phéaciens, qui vont encore nous surprendre, sont toujours en train de festoyer. Ils sont comme des incarnations perpétuelles de ces moments éphémères de bonheur collectif, de grâce, de liesse, que connaissent les Grecs quand ils se rendaient en masse à de grands festivals sur l'île de Délos ou ailleurs. Ils y accouraient avec leurs bateaux pour participer à ces fêtes splendides et se réjouir pendant quelques jours. Ils venaient célébrer les dieux, écouter des poètes, faire des compétitions sportives, faire la fête dans un luxe partagé. C'est comme si l'île et la société merveilleuse des Phéaciens étaient la transformation de ces moments provisoires, exceptionnels, en un monde permanent, bien établi. Mais, on va le voir, ce monde de fêtes est voué à la disparition, comme prend fin chaque fois l'expérience heureuse des grandes festivités. Ce qui est étonnant aussi, c'est qu'Ulysse attende impatiemment le soir, comme si son départ sur mer ne pouvait avoir lieu qu'après la tombée du jour. Or, normalement, on ne navigue pas la nuit, c'est trop dangereux. Mais là, c'est bien ce qui va se passer. Le soir tombe, Ulysse est heureux.
Comme quand un homme désire le souper, car tout le jour, ses bœufs vineux dans la jachère ont traîné la charrue. Il voit s'éteindre avec joie la lumière du soleil et le souper venir, ses genoux cassés par la marche. Ainsi, Ulysse eut joie à voir se coucher le soleil.
Il faut partir. Le roi Alcinous préside une ultime cérémonie bien arrosée d'un vin doux comme le miel, qu'il a d'abord offert au dieu bienheureux. Ulysse remet à la reine, qui est la véritable autorité sur cette île, la coupe remplie par le roi. Il lui souhaite le meilleur avenir possible.
Ô reine, le bonheur soit ton compagnon jusqu'à l'heure de la vieillesse et de la mort qui attendent les hommes. Moi, je m'en vais. Mais toi, jouis en ces demeures, de ton peuple, de tes enfants et du roi, ton seigneur.
La reine ne répond pas, ne dit rien à Ulysse. Ce silence indique déjà que quelque chose d'extraordinaire va avoir lieu pour elle et pour les Phéaciens. En fait, il n'y aura pas d'avenir heureux pour cette île. Le passage d'Ulysse sera pour les Phéaciens une catastrophe. On le verra. On embarque. La reine fait porter par des servantes de la nourriture, du pain et du vin rouge, comme l'avaient fait Circé et Calypso. Et très précieux, elle fait porter le coffre où de beaux vêtements ont été serrés. Ce coffre est spécial, unique. La reine a demandé à Ulysse de le fermer avec un nœud que personne ne pourrait défaire. Ulysse a utilisé un nœud secret que lui avait enseigné la magicienne Circé. Le coffre est ainsi inviolable. Ce ne sera pas comme l'outre pleine de vent que le bon Éole avait offerte à Ulysse. Les compagnons, curieux et indignés de n'avoir reçu aucun cadeau, ont ouvert cette outre et la tempête se déchaîna contre le navire. Cette fois, le trésor est bien clos. Sur le bateau, une place de luxe est préparée pour Ulysse. C'est une place pour le sommeil. Pour un sommeil qui, dit Homère, ressemble à la mort. Ulysse ne doit rien voir du voyage. Ce sera la nuit et il sera inconscient.
Quand ils eurent rejoint le bateau et la mer, les superbes passeurs déposèrent vite les dons dans le profond vaisseau, la boisson et la nourriture. Ils étendirent pour Ulysse un drap et un linon sur le gaillard de poupe du profond navire, afin qu'il pût dormir tranquille. Ulysse alors monta et se coucha en silence. Chacun prit place à son tollé en bon ordre, et l'on détacha les amarres de la borne. Les rameurs, se cabrant, éclaboussèrent d'eau les rames. Alors, un doux sommeil tomba sur ses paupières, profond et tout pareil au calme de la mort.
Le retour à Ithac est donc présenté comme un retour à la vie, après une phase de mort. Les Phéaciens rament à grande allure, la mer est bousculée.
Comme des étalons groupés par quatre dans la plaine s'élancent ensemble sous les coups du fouet, tête dressée, ils font longue route en peu de temps. Ainsi, la poupe de leur bateau montait, et par derrière, la houle de la mer tonitruante bouillonnait. Sa course était égale et sûre, et l'épervier lui-même n'aurait pas pu lutter le plus rapide des oiseaux. Cinglant ainsi, il divisait les vagues de la mer, emportant ce héros, sage comme les dieux, qui avait tant souffert d'angoisse dans son cœur, dans la bataille humaine et dans la douloureuse houle. Il dormait, immobile, toute souffrance oubliée.
On ne sait pas quelle distance le bateau a parcouru. On ne peut pas le savoir. Le bateau va vite comme la pensée. Mais cela n'empêchait pas la plupart des anciens de situer précisément l'île des Phéaciens dans l'univers géographique connu. Il y avait une tradition qui faisait des Phéaciens les habitants de l'île de Corfou, Corcyre, selon le nom ancien, au nord d'Ithac. Cela pouvait passer pour certains. Ainsi, l'historien Thucydide, du 5e siècle avant Jésus-Christ, évoque les Phéaciens quand il parle de l'île de Corfou, comme si ça allait de soi.
L'ancien établissement, à Corcyre, des Phéaciens, bien connus comme marins.
Une autre tradition, plus récente, situe au contraire les Phéaciens hors du monde connu. On s'appuie alors sur ce que dit Nausicaa elle-même dans l'Odyssée. Les Phéaciens, dit-elle, sont loin de tout.
Nous vivons à l'écart au sein de la mer démontée, au bout du monde, et sans fréquenter d'autres hommes.
On pouvait alors situer cette île au-delà de la Méditerranée, quelque part dans l'espace ouvert, indéfini, qu'est l'océan Atlantique. Il y avait débat. La question géographique, visiblement, n'intéresse pas Homère. On verra qu'il fait tout pour que les Phéaciens échappent à toute localisation.
C'est pas une raison pour tout foutre en l'air. C'est pas une raison, mais j'étais en colère. Je ne sais plus comment demander qu'on m'aime. Je suis impatient. Tu me manques tant. Et puis tous les matins je me lève et je me demande encore ce qui m'est arrivé là. Et puis tous les matins comme en rêve je me demande encore ce qui m'est arrivé là. Oh, 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 je veux rentrer chez moi. Toutes sous la terre, on m'avait rien dit. J'ai dû laisser faire parler à l'enfant du passage du temps. Jamais donner de nouvelles. Ton sens, tout se révèle. Depuis
Pierre-Judet de la Combe nous parle de la colère de Poséidon, furieux contre les Phéaciens.
Alors que se lève l'étoile du matin, les Phéaciens arrivent à Ithaque. Ils échouent leur bateau sur une plage qu'ils connaissaient bien, dans une baie bien abritée, protégée de la houle et du vent par des falaises. Tiens, tiens, ça rappelle le port de l'île des Lestrigons, où avait relâché la flotte d'Ulysse pour son malheur. Depuis les falaises, les Lestrigons ont bombardé de pierres tous les bateaux, sauf celui d'Ulysse. Ils ont harponné comme des thons tous les hommes pour les dévorer. L'île tant désirée d'Ithaque pourrait-elle donc ressembler à ce lieu monstrueux? La baie où s'est arrêté le bateau des Phéaciens porte un nom qui déjà peut faire peur. Elle porte le nom de port de Phorcys. Ce Phorcys était une vieille divinité marine bien connue, fils de terre et du dieu de la mer, Pontos. Phorcys a engendré une série de monstres, les trois vieilles, qui sont nées avec des cheveux blancs et n'avaient qu'un œil et qu'une seule dent pour toutes les trois. Il est aussi le père des trois gorgones. Peut-être qu'on donnait ce nom port de Phorcys à un lieu important pour la navigation par précaution, en espérant se le rendre favorable avec un tel hommage. Mais pire que tout, Phorcys est le grand-père du cyclope dont Ulysse a crevé l'œil unique. C'est cet acte qui a causé les malheurs, les errances d'Ulysse. En arrivant chez lui, Ulysse n'est donc pas libéré de la malédiction que le cyclope Polyphème a lancée contre lui. Près de la plage où débarquent les Phéaciens, il y a des merveilles. C'est un lieu incroyable. Il y a un grand olivier au fin feuillage. Cet arbre de lumière fait contraste avec une grotte sombre, mais merveilleuse. Une grotte consacrée à des nymphes, qu'on appelle les naïades. Ulysse y venait souvent autrefois leur faire des offrandes. Cet abri souterrain est paradoxal. Il est sombre, brumeux comme la nuit ou comme la brume de la haute mer. Mais il est adorable, nous dit Homère. C'est un lieu de plaisir. Cette grotte est comme un concentré du monde, de ses contradictions, un résumé étonnant, minéral. On y trouve des amphores et des cratères pour le vin. Et ces objets, qui annoncent des fêtes et des rituels joyeux, ne sont pas en terre cuite, mais en pierre, comme la grotte. La douceur et la beauté habitent le lieu. Les abeilles viennent y faire leur miel. Il y a des métiers à tisser, ou comme Circé, comme Calypso, les nymphes tissent des merveilles, et ce sont des tissus marins de la couleur de la pourpre de la mer. Ces métiers sont très étranges. Ils ne sont pas en bois, mais en pierre, bien lourds sur le sol, figés à jamais, comme s'ils ne devaient pas disparaître. Dans cette grotte coule une source intarissable. Cela rappelle en petit ce qu'on dit des eaux de l'immense fleuve qu'est l'océan, qui est à l'origine de tous les fleuves, de toutes les sources. Une partie des eaux de l'océan s'enfonce, dit-on, dans la terre jusqu'à ses tréfonds, où elle se déverse en cascade dans une immense cavité. L'antre des nymphes semble bien recueillir ces eaux inépuisables. Modèle réduit du monde, la grotte est à la fois un lieu qui rapproche humains et divinités, comme on les voit agir ensemble dans l'épopée, et un lieu qui marque leur séparation insurmontable. La grotte a en effet deux entrées, une vers le nord pour les êtres humains, l'autre vers le sud pour les dieux et les déesses. Nord et sud sont notés par les noms des vents qui viennent de ces deux espaces, le Borée et le Notos.
Il est deux portes, l'une vers le Borée, par où descendent les humains, l'autre vers le Notos, plus divine, par où les hommes ne passent pas. C'est le chemin des immortels.
Sorte de résumé du cosmos. La grotte, avec l'olivier qui en est proche, est aussi une concentration des différents lieux traversés par Ulysse. L'olivier rappelle le bel arbre où Ulysse a trouvé refuge en débarquant chez les Phéaciens après son naufrage. La grotte fait penser à celle des Cyclopes également près de la mer, mais sans les maléfices qui attendent Ulysse et ses compagnons. On retrouve évidemment Éole avec les vents, la grotte des filles du dieu soleil, Calypso, Circé, la douceur des fêtes phéaciennes. Mais tout cela est pierreux, figé, brumeux, comme si c'était fini. On le verra, quelque chose de semblable attend le bateau des Phéaciens. Il sera littéralement pétrifié, transformé en pierre. Les Phéaciens sortent Ulysse, encore endormi de leur navire. Ils le déposent sur la plage.
Débarquant du vaisseau bien charpenté, les Phéaciens emportèrent d'abord du profond vaisseau le héros, enroulé dans son drap moiré et son linon, le déposèrent sur le sable, accablé de sommeil.
Puis, ils déposent la masse des cadeaux, coffres, trépieds, chaudrons de bronze, sous l'olivier. Et ils s'en vont. C'est là que ça va commencer à très mal tourner pour eux. Poséidon est furieux. Le dieu avait maudit Ulysse pour venger son fils, le cyclope Polyphème, qu'Ulysse a aveuglé. Il lui avait promis 1000 épreuves sur mer et 1000 autres épreuves s'il rentrait chez lui. Sa colère est tenace. Il savait qu'il ne pouvait pas empêcher totalement le retour d'Ulysse dans sa patrie, car Zeus, son frère aîné, frère plus puissant que lui, l'a décidé. Mais il ne peut pas ne pas réagir. Il ne peut pas accepter que des gens aient pu aider ainsi son ennemi Ulysse aussi facilement. Ces gens doivent payer. C'est dramatique. Le cyclope est le fils de Poséidon. Et le roi qui a fondé la ville des Phéaciens, le roi Nausithoos, père d'Alcinoos, est aussi un fils de Poséidon. On est en pleine querelle de famille. Les cyclopes par Polyphème et les Phéaciens par Nausithoos sont des demi-frères. Pourtant, il n'y a pas plus opposé. Les cyclopes forment une société rudimentaire, à peine une société, chaque famille vivant dans sa grotte pour soi-même, avec une agriculture ultra simple, sommaire, et ils sont cannibales. Les Phéaciens, à l'inverse, sont hyper civilisés, avec une organisation politique élaborée. Ils connaissent 1000 techniques. Et ce n'est pas étonnant que Poséidon soit à l'origine de ces deux sociétés tellement opposées. Poséidon, dieu de la mer, dieu des chevaux, dieu qui ébranle la terre avec son trident, est toujours en mouvement, en énergie, que cette énergie soit sauvage, brute ou très raffinée. Poséidon fraye aussi bien avec des monstres marins qu'avec les dieux lumineux de l'Olympe. Il est toujours entre. Poséidon, qui a produit ces deux mondes contraires, ne peut lâcher son fils, Cyclope. Il va le défendre contre son autre lignée, celle des Phéaciens. Ce n'est pas une question de préférence, mais une question d'honneur, une question d'ordre. Aider Ulysse, son ennemi, c'est ne pas le respecter, lui, le grand dieu. Les Grecs anciens avaient souvent cette conception de la justice. On est quelqu'un de juste si on fait du bien aux amis et du mal aux ennemis. On entend beaucoup cela en ce moment. On défend sa tribu contre des ennemis ou supposés ennemis. Faire du bien à un ennemi, comme ont fait les Phéaciens pour Ulysse, n'est pas juste. C'est une trahison. Les Phéaciens doivent être châtiés, même et surtout s'ils sont des proches, supposés être amis. Poséidon veut agir. Il doit d'abord savoir ce que Zeus, le dieu suprême, permet ou non. Poséidon lui expose sa colère.
Zeus, père, plus jamais je ne trouverai le respect des immortels si des humains ne me respectent pas, tels que ces Phéaciens, qui sont pourtant de ma race. Certes, je savais bien qu'Ulysse, après tous ses malheurs, reviendrait au logis. Je n'avais pas absolument interdit son retour qui lui était par toi promis. Mais l'emportant sur mer endormi dans un prompt navire, ils l'ont remis chez lui. L'ayant comblé de dons splendides, abondance de bronze et d'or, de vêtements tissés, plus qu'il n'en eût jamais pu ramener de Troie, s'il était rentré sain et sauf, avec sa part du butin fait.
Zeus répond à son frère qu'il est libre. Si quelqu'un, quel qu'il soit, lui a manqué de respect, Poséidon a le droit de le punir, comme il le souhaite. Poséidon annonce alors ce qu'il va faire. Il va couler le bateau des Phéaciens qui a ramené Ulysse chez lui, et il va faire disparaître la ville des Phéaciens sous une montagne. La menace de Poséidon n'est pas très facile à comprendre. Veut-il dire qu'il va écrabouiller la ville des Phéaciens sous la masse d'une montagne? Certains l'ont pensé. Il semble dire plutôt qu'il veut la rendre invisible, inaccessible, en dressant autour d'elle l'enveloppe, l'écran d'une grande montagne. Les Phéaciens seront isolés de tout. Ils ne pourront plus être des marins, des passeurs. Zeus lui dit qu'il est d'accord. Il affine même le châtiment que Poséidon pourrait imposer aux Phéaciens. Plutôt que de couler bêtement leur bateau, il pourrait le transformer en rocher.
Zeus, qui s'est rallié les nuages, lui répondit.
Doux fils, voici ce qui me semble le meilleur. Au moment où le peuple de la ville apercevra le navire approchant, près du bord, change-le en roc. Un roc en forme de navire, afin que tous en soient surpris, puis recouvre d'une grande montagne leur cité.
Poséidon reprend la suggestion. Il se met en marche et rejoint l'île des Phéaciens.
Il se rendit à Skéry, où vivent les Phéaciens, et attendit. Bientôt le vaisseau de mer s'approcha, filant grand air. Poséidon fit un pas vers lui, le changea en rocher et, pesant du plat de la main, l'enracina profond, puis il s'en retourna.
Devant le port de Corfou, il y a de fait un long rocher en forme de navire. Depuis l'Antiquité, on dit que c'est ce qu'est devenu le bateau qui a ramené Ulysse chez lui. Poséidon l'a transformé en caillou.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
If I pose and I thread, if I pull on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there? Stay, will you kneel? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see, I dance till my feet bleed.
Pierre Judet de la Combe évoque le réveil d'Ulysse, surpris, car il ne reconnaît pas son île.
Les Phéaciens sont médusés. Le roi Alcinoos n'est pas seulement surpris, il est effrayé. Il connaissait une vieille prédiction transmise par son père. Son père lui avait dit qu'un jour, Poséidon voudrait aux Phéaciens d'être des passeurs très efficaces. Ils couleraient un de leurs navires et recouvriraient leur ville d'une montagne. La première partie de la prédiction vient de se réaliser de manière inattendue. Alkinos voit qu'il faut agir très vite, tout faire pour que la seconde partie, l'ensevelissement de la ville, ne se réalise pas. Il convainc les Phéaciens d'arrêter définitivement de faire leur travail de passeurs. Et il leur ordonne d'organiser un énorme sacrifice en l'honneur de Poséidon pour le calmer.
Maintenant donc, faisons comme je vous le dis. Cessons de convoyer les mortels qui arrivent en notre ville. Et sacrifions à Poséidon 12 taureaux de choix, afin qu'il ait pitié et ne recouvre pas notre cité d'une montagne.
À ces mots, prenant peur, ils apprêtèrent les taureaux.
Et là, il se passe un truc extraordinaire dans le texte de l'Odyssée. On attend la réaction de Poséidon. On veut savoir si le dieu a accepté l'offrande des 12 taureaux, son animal favori, s'il a écouté la prière des Phéaciens et s'il lui a donné suite. Chez Homère, c'est toujours comme ça que ça se passe. Quand il y a un sacrifice et une prière, on nous dit toujours comment le dieu ou la déesse a réagi. Mais là, rien. On ne sait rien. Dans le même vers, sans aucune transition, Homère interrompt le récit où il raconte la cérémonie des Phéaciens et passe brusquement à Ithaque. On avait laissé Ulysse endormi pour nous dire qu'Ulysse se réveille.
Cependant qu'il priait le seigneur Poséidon, les conseillers et les gouverneurs de Phéacie, debout près de l'autel, Ulysse s'éveillait dans sa patrie.
Et on n'entendra plus jamais parler des Phéaciens. Qu'est-ce qui est arrivé à leur île ? A-t-elle été épargnée ? Ou Poséidon a-t-il réalisé sa menace ? On ne sait pas, ça reste en l'air, inachevé. On se croirait dans un roman moderne, où l'auteur peut prendre plaisir à ne pas dire ce qui se passe. Cette interruption du texte a gêné dès l'Antiquité. Un des éditeurs antiques du texte d'Homère, un grand savant, qui travaillait dans la bibliothèque d'Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a transmis une version du texte où Zeus aurait dit à Poséidon, non pas
« Recouvre d'une grande montagne leur cité,
mais
ne recouvre pas d'une montagne leur cité. »
Il suffit de changer quelques lettres. Peut-être que c'est en s'appuyant sur un texte de ce type qu'une tradition a pu se diffuser. L'île des Phéaciens n'aurait pas disparu. Elle serait toujours de ce monde. La preuve, Télémaque, le fils d'Ulysse, a épousé Nausicaa. On dit aussi qu'il a épousé Circé. C'est un bon fils qui suit les traces de son père. Mais on n'a aucune idée des circonstances de cette rencontre. En tout cas, en cassant son récit, Homère s'amuse à nous laisser dans l'embarras. Et il réussit à créer un effet étonnant. Les Phéaciens font une prière pour leur avenir. Et Ulysse, loin de là, se réveille. C'est comme si toute cette histoire des Phéaciens, de leur île, de ce qu'ils ont fait pour Ulysse, était désormais considérée comme un rêve. C'est fini, c'est parti, enfoui dans la nuit. Maintenant, il faut se confronter à autre chose, à un autre monde, au monde réel, Ithaque. Ulysse, finalement, s'est donc réveillé sur la plage. Et là, seconde surprise, il est chez lui, mais il ne reconnaît rien.
Ulysse s'éveillait dans sa patrie. Après sa longue absence, il ne la reconnaissait pas.
Après 20 années d'absence, ça paraît somme toute normal. Mais Homère nous dit autre chose. C'est Athéna qui s'est arrangée pour qu'il ne reconnaisse rien. Elle a diffusé autour d'Ulysse, autour de l'île, une vapeur sombre et trompeuse. Le but était double. Transformer la vision d'Ulysse, son regard, pour qu'il ne soit plus lui-même et ne reconnaisse rien. Et faire que les gens qu'il allait rencontrer ne le reconnaissent pas.
Après sa longue absence, il ne reconnaissait pas sa patrie, car la fille de Zeus l'avait enveloppée d'un brouillard pour qu'il demeurât invisible, qu'elle pût tout lui expliquer et que sa femme, ses amis, son peuple, y soient trompés, jusqu'à ce qu'il châtiât tous les excès des prétendants.
Ulysse, entouré de cette brume, devient méconnaissable et étant réellement changé, il ne reconnaît pas les paysages, les choses qu'il connaissait. Athéna a changé à la fois le regard et l'apparence d'Ulysse. Sa brume brouille tout.
C'est pourquoi toute chose aux yeux du maître semblait autre. Les longs chemins, les ports de bon mouillage, les rochers escarpés et les arbres touffus.
C'était vital, cette confusion des choses et de la vision. Si Ulysse était reconnu, il serait en danger, seul, face aux méchants prétendants. Et s'il reconnaissait des lieux qui lui étaient familiers autrefois, il se serait précipité chez lui et aurait été massacré. Ulysse ne sera chez lui que quand il aura supprimé les prétendants. Il ne suffit pas d'être arrivé à Ithaque. Il faut reconquérir sa place. Ce sera très dur, une vraie lutte comme à Troie. La reconnaissance d'Ulysse par son épouse, Pénélope, n'arrivera que plus tard. Pour être vraiment lui-même, pour être reconnu par ses proches, il faudra mentir, tromper, être faux, tellement le monde où il débarque, monde dominé par des brutes dangereuses, est devenu faux. Mais en attendant, Ulysse ignore tout cela et ne comprend rien. Il découvre simplement qu'Ithaque n'est pas Ithaque. Il n'est visiblement pas rentré chez lui. Une colère monte alors en lui. Il se dit que les Phéaciens l'ont trompé.
Il se leva d'un bond, contempla sa terre natale, puis soupira. Et frappant du plat de la main ses cuisses en gémissant, il dit ces mots.
« Hélas, en quelle terre encore ai-je échoué? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des hommes hospitaliers craignant les dieux ?»
Ce sont les questions qu'il se posait quand il débarquait dans une terre inconnue. Sa terre à lui est devenue inconnue, dangereuse, comme l'île des Cyclopes ou celle des Lestrigons. Et de fait, il n'y aura pas une grande différence à cause des prétendants. La sauvagerie a gagné Ithaque. Abusé par la vapeur qu'a répandue Athéna, Ulysse se met à maudire les Phéaciens.
Malheur! Ils n'étaient donc nullement justes et sensés, ces gouverneurs, ces conseillers de Phéacie, puisqu'ils m'ont dirigé tout ailleurs. Ils m'avaient promis de me rendre à ma claire Ithaque, et ils ne l'ont pas fait. Le Zeus des suppliants puisse-t-il les punir, qui veille sur le monde et condamne tous les coupables.
Ulysse va-t-il rester longtemps dans l'erreur? Va-t-il reconnaître son Ithaque? Ça ne se fera pas tout seul. Il devra apprendre à se débrouiller dans un monde perverti. Être chez soi, ça ne se fait pas naturellement, ça se gagne. La patrie peut être occupée par des forces hostiles. Pour être Ulysse, Ulysse devra ruser. Après tout, c'est ce qu'il sait faire. C'est peut-être cela, son identité.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël Eladad et Laurence Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.